Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
C'est dans la Grèce antique que nous emmène Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. L'Athènes que je vous propose de découvrir ensemble en cette fin de saison n'est plus la cité triomphante du grand Périclès. C'est une république aux abois, cernée, menacée par la puissance macédonienne et son chef, le grand Alexandre. Et notre héros du jour est un orateur, ou si vous préférez un homme politique assez largement oublié, disons-le, Démosthène, avec à la clé cette question: Démosthène a-t-il été le corrompu que l'on dit ? Question que je poserai à notre invité Patrice Brun, enseignant l'histoire grecque à l'université de Bordeaux-Montaigne. Et puis, à partir de 15h, Vanessa Zah va nous emmener justement à Athènes, histoire de nous donner le sentiment d'être déjà tout à fait en vacances.
Europe 1, 14h, 15h30.
Au cœur de l'histoire,
Franck Ferrand.
Athènes en 323 avant notre ère. C'est plus exactement la puissante cité qui dominait le monde grec un siècle plus tôt, sous le grand Périclès. Il est vrai que son rayonnement, sa culture, le symbole qu'elle représente en termes de démocratie comme de liberté, tout ça ne s'est pas atténué, mais l'âge d'or de la cité grecque est derrière elle. Athènes est en proie maintenant à un danger de taille, puisque le royaume de Macédoine, royaume sur lequel règne Philippe II de Macédoine, ce royaume a des volontés hégémoniques grandissantes et, disons-le, très menaçantes. Au cœur d'Athènes, un homme est là, qui défend ardemment la cité face à la menace macédonienne. C'est un défenseur intransigeant de la démocratie. C'est ce qu'on pourrait nous appeler un nationaliste, si vous voulez. Il est avant tout connu comme étant l'un des grands orateurs athéniens. Il s'appelle Démosthène. Face à l'espèce de défaitisme qui s'est emparé de ses concitoyens, le grand rhéteur tente de leur prouver que la situation n'est mauvaise qu'en raison de l'inactivité des Athéniens et qu'un sursaut d'énergie pourrait encore renverser les choses. Son idée est celle-là et il a bien l'intention de persuader les Athéniens de résister face aux assauts des Macédoniens. Il engage contre le roi de Macédoine, contre Philippe II, une violente lutte rhétorique à travers des discours qui vont rester célèbres. Les discours en question, ce sont les philippiques, chef-d'œuvre de l'art oratoire, qui désigne Philippe comme l'ennemi juré, l'ennemi atavique d'Athènes. Des discours qui dénoncent l'aveuglement et l'esprit de démission des Athéniens. Mais secouez-vous, que diable ! Seulement voilà. En 336, avant notre ère, donc bien sûr, je vais pas le dire à chaque fois, en 336 vient à mourir Philippe, et Philippe II laisse sa place sur le puissant trône de Macédoine à son fils. Son fils, c'est Alexandre, bien sûr, celui qu'un jour on appellera Alexandre le Grand et qui devient nécessairement un ennemi héréditaire pour Démosthène. On peut dire que le nouveau roi de Macédoine, qui laisse le gouvernement à son général Antipatros, le nouveau roi repousse les Perses, se lance à la conquête d'un immense empire. On va le voir conquérir l'Égypte, bien entendu, et puis passer par-dessus la Perse et s'en aller comme ça jusqu'à l'Indus, jusqu'au continent indien. Alors qu'Alexandre le Grand atteint les frontières de l'Inde, à Athènes, on se demande s'il est encore possible de résister à cette espèce de nouvel empereur et à son expansion inexorable. Démosthène continue de pousser à la lutte contre les prétentions hégémoniques de la Macédoine. Si l'on en croit l'orateur, Alexandre n'a d'autre visée que l'asservissement d'Athènes. Et on voit souvent aujourd'hui en Démosthène l'homme qui a donné sa vie pour la paix, pour la liberté, celui qui a préféré se suicider plutôt que de tomber entre des mains macédoniennes. Or, si vous regardez les choses d'un peu plus près, vous allez voir que la réalité est nettement plus complexe. On peut même se demander si Démosthène a été vraiment le défenseur irréprochable de la paix. Pendant l'absence d'Alexandre le Grand, un événement imprévu place le grand orateur face à ses propres contradictions. Nous sommes en décembre 325, on annonce le retour donc du grand roi Alexandre à Babylone. La nouvelle de ce retour terrifie tous ceux qui avaient gouverné en son absence, notamment un compagnon d'enfance d'Alexandre qui s'appelle Harpal, à qui le roi avait confié la garde de ses réserves d'or. Or, Harpal, nommé trésorier du roi, a opéré, pendant la longue absence d'Alexandre, un certain nombre de malversations, de détournements. Il a dilapidé même une grande partie des trésors du régent. Et lorsqu'il apprend le retour du roi, il se dit que les représailles risquent d'être terribles. Et voilà pourquoi Harpal s'enfuit. Il quitte Babylone, emportant avec lui des navires, des milliers de mercenaires et surtout 700 talents d'or. Il rejoint Tarse sur la mer Méditerranée, d'où il embarque pour la Grèce. Quand je dis pour la Grèce, pour Athènes. Athènes, c'est évidemment la cité persécutée par les Macédoniens. Et bien bizarrement, c'est aux Athéniens qu'Harpal demande l'asile. Au printemps 324, il arrive donc avec ses navires, son armée, ses mercenaires. Il débarque au port célèbre du Pirée. Pour les Athéniens, c'est un événement assez inattendu et qui pose un cas de conscience. Est-ce qu'il faut accepter d'accueillir ce Macédonien poursuivi par Alexandre ? Dans la cité, inutile de vous dire qu'on se pose beaucoup de questions, on débat. Après tout, les Athéniens sont connus pour leur sens de la palabre. On s'interroge, Démosthène est catégorique. Il faut absolument refuser de faire entrer Harpal et les siens dans Athènes. Et ses concitoyens se rangent à son opinion. Harpal va de nouveau tenter sa chance quelques semaines plus tard, au mois de juin, et cette fois il a laissé derrière lui ses troupes, ses mercenaires, ses navires, tout ce qui lui donnait une attitude menaçante et trop guerrière, si vous voulez, et c'est seul, en attitude très humble, de suppliant pour ne pas dire de martyr, qu'il se présente au Pirée. Il a en sa possession tout l'or qu'il a rapporté de Babylone. Les Athéniens, influencés par Démosthène, reviennent à ce moment-là sur leur position, et finalement, on autorise Harpal à entrer dans la ville. Les Macédoniens, apprenant qu'Harpal s'est réfugié dans Athènes, demandent immédiatement son extradition. Nouveau cas de conscience pour les citoyens athéniens. Est-ce que maintenant qu'on l'a accepté, il faut livrer Harpal ? Pour Démosthène, livrer à l'ennemi un demandeur d'asile serait honteux. Pour autant, protéger le trésorier qui a trahi Alexandre expose la ville, expose la République à de graves périls. Le roi de Macédoine risquerait de voir ça comme une provocation et Démosthène va proposer une solution. Le plus sûr pour Athènes, dit-il, ce serait d'emprisonner Harpal et de mettre tout son trésor sous séquestre à l'Acropole. Ça permettra de gagner du temps. Démosthène met donc en place une commission dont il fait partie forcément, commission chargée de mettre Harpal derrière les barreaux, de saisir ses richesses, de mettre les richesses en question à l'abri, donc le trésor est monté, hissé sur l'Acropole, entreposé dans une salle tout au fond du Parthénon, qui s'appelle l'Opisthodome, cette pièce interdite au public où est traditionnellement gardé le trésor de la cité. Or, à peine quelques jours plus tard, le lendemain ou le surlendemain, Harpal disparaît. Il s'évade de sa prison. On vérifie que le trésor déposé dans le Parthénon est toujours présent. Or, la moitié des richesses n'est plus là. Elles se sont envolées, ces richesses. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Évidemment, très vite, les soupçons vont peser sur Démosthène.
Thank you.
Un extrait de la bande originale du péplum multinational d'Oliver Stone à l'instant sur Europe 1, ce film Alexandre qui raconte la vie d'Alexandre le Grand. Et cet après-midi, Franck Ferrand a décidé de vous emmener au cœur de la vie de Démosthène. Et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire.
Sur Europe 1.
Europe 1.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de la vie de Démosthène, ce grand orateur de l'Antiquité grecque. Alors on dit souvent que Démosthène était bègue et qu'il a réussi à surmonter son bégaiement. Est-ce que c'est vrai, Franck ?
Oui, alors ça, nous verrons ça avec notre invité tout à l'heure, mais il semblerait que ça tienne beaucoup de la légende. C'est Plutarque, vous savez, qui a beaucoup fait pour la légende des cailloux de Démosthène. Ce qui est probable, c'est que l'histoire a été quand même inventée a posteriori. Mais ce qui est sûr, c'est que Démosthène était un immense orateur. Sa maîtrise de l'art oratoire va même être très utile pour lui, pour essayer de le sauver dans la fameuse affaire Harpale. Harpale est donc parvenu à s'évader, il a quitté Athènes, il a rejoint la Crète. La moitié du trésor qu'il avait apporté avec lui s'est évaporée. Rapidement, la nouvelle se répand dans la cité grecque et provoque un certain émoi parmi les citoyens. Comment rendre compte de cette mystérieuse disparition? Où sont passés les 350 talents manquants sur le total de 700 talents apportés par Harpale? Qui, quand, comment est-ce qu'on a dérobé cet argent? L'institution juridique suprême d'Athènes, ce qu'on appelle l'aréopage, va être chargé d'enquêter et très vite, l'attention du tribunal se porte sur un certain nombre d'hommes qui ont été en contact avec Harpale. Parmi eux, Philoclès, l'homme qui a autorisé le débarquement d'Harpale et de ses hommes au Pirée, mais aussi Démade, qui est alors avec Démosthène un des orateurs les plus brillants de la cité et qui a échangé avec Harpale. Enfin, bien sûr, Démosthène lui-même. Le grand orateur, au moment de l'enquête, est plutôt confiant. Il ne craint pas tellement l'aréopage. Il faut vous dire que ce conseil qui siège la nuit sur la colline de l'Arès et où aucun artifice oratoire n'est permis pour émouvoir ou attendrir les juges, ce conseil a tout de même une certaine sympathie pour l'orateur. C'est devant l'aréopage que Démosthène avait dénoncé la nomination d'Échine comme ambassadeur chargé de négocier la paix auprès de Philippe de Macédoine. Ça nous ramène quelques années en arrière. Enfin, tout ça a tissé des liens avec les juges, bien entendu. Et puis, grâce à son fameux discours sur la couronne, c'est le nom du discours, Démosthène est parvenu à faire condamner et faire exiler Échine. Donc, il n'a pas tellement peur de l'enquête qui est menée. Il va même quitter Athènes en septembre pour se rendre à Olympie. Et oui, c'est l'époque des Jeux Olympiques. L'affaire ne peut cependant en aucun cas être étouffée. Et à la fin du mois de décembre de cette année 324, après 6 longs mois d'une enquête qui a été menée avec beaucoup de rigueur, l'aréopage rend son verdict. Une liste de dizaines de noms est publiée et le premier nom sur la liste, c'est celui de Démosthène. Démosthène, accusé de s'être fait verser par Harpale quelques 20 talents, une somme colossale. D'autres hommes sont mis en cause, parmi lesquels notamment Démade, qui aurait détourné 6000 statères d'or. L'arrêt royal est renvoyé vers le tribunal populaire de l'Hélier, composé de 1501 juges, qui vont devoir condamner définitivement ou accuser les accusés, ce sera selon. Dès janvier 323, les accusés comparaissent devant ces fameux juges. Ils sont face à 10 grands orateurs qui soutiennent contre l'acte d'accusation. Le premier des rhéteurs, Hypéride, est un ancien allié de Démosthène. Il l'avait soutenu dans son combat contre la Macédoine. Seulement, Hypéride, qui est assez indigné contre ce qu'on suppose, contre cette corruption dont on taxe Démosthène, Hypéride va prononcer un violent discours contre celui qui autrefois était son ami. « Notre amitié, c'est toi-même qui l'a brisé », clame-t-il, « quand tu as accepté de l'or contre les intérêts de la patrie ». Il y a un autre accusateur, le rhéteur corinthien Dinarque, qui lui non plus n'y va pas de main morte contre Démosthène avec un réquisitoire sans concession. Retrouvez la colère de vos ancêtres à l'encontre de celui qui a été convaincu en pleine lumière de vol et de trahison, celui qui n'a pas résisté aux richesses introduites dans la cité, qui l'a précipité, cette cité, dans les pires malheurs et qui est le fléau de la Grèce. Condamnez-le à mort, jetez son corps au-delà des frontières et permettez ainsi à la cité, de retrouver la fortune. Bien plus tard, près de 4 siècles après l'événement, Plutarque aura tendance à grossir ce trait supposé de caractère du grand orateur en décrivant Démosthène comme un homme avide d'argent, facilement corrompu, notamment à travers une anecdote que Plutarque d'ailleurs a certainement inventée. Je vous la raconte quand même et je vous lis le texte du grand historien. Comme on faisait l'inventaire de ses richesses, voyant que Démosthène regardait avec désir une coupe à la mode barbare et en examinait avec soin la ciselure et la forme, Harpale lui dit de la soupeser et d'évaluer son poids en or. Or, Démosthène, surpris de sa lourdeur, demanda sa valeur. « Pour toi, dit Harpale, elle vaudra 20 talents. » Et la nuit venue, il lui envoya la coupe avec 20 talents. Démosthène ne résista pas et, vaincu par le cadeau, comme s'il avait accueilli une garnison, passa du côté d'Harpale. Le jour suivant, il s'enveloppa bien soigneusement le cou de l'ainage et quand on le pressa de prendre la parole, il refusa en faisant signe qu'il avait la voix coupée. Les gens d'esprit disaient en s'esclaffant que l'orateur avait été pris dans la nuit, non d'une angine, mais d'une argentine.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Nous sommes en moins 320 avant Jésus-Christ cet après-midi sur Europe 1. Vous nous racontez le parcours politique de Démosthène. Démosthène qui est accusé, Franck, et un procès s'annonce.
Alors, il faut bien comprendre qu'au moment du procès, l'orateur Démosthène a derrière lui le soutien d'une grande partie du peuple athénien. Il est très apprécié dans la cité, il y a beaucoup de citoyens qui lui font une confiance aveugle, puisqu'il est celui qui les a constamment réveillés contre le danger macédonien. Démosthène tient une ligne de défense assez classique, il affirme n'avoir fait qu'emprunter la somme incriminée à titre provisoire et pour les intérêts de la cité, dit-il. Autrement dit, il n'aurait pas du tout volé cet argent, il l'aurait simplement prélevé momentanément pour les besoins d'Athènes. Mais voyons, cette défense ne peut rien contre le verdict du tribunal populaire. Sans aucun recours possible, les 1501 jurés, 1501 pour faire un nombre impair et qu'il n'y ait pas d'égalité dans les scrutins, bien entendu, hein. Les 1501 jurés de l'ailier condamne Démosthène à une amende de 50 talents, c'est-à-dire le double de ce qu'il est accusé d'avoir volé, une somme absolument faramineuse. Il est bien sûr dans l'incapacité de payer, donc jeté en prison et presque immédiatement, tout comme Harpale l'avait fait près de 6 mois plus tôt, certainement grâce à la compassion des geôliers ou au soutien d'amis, toujours est-il que Démosthène va s'évader. Il fuit maintenant Athènes. On le voit gagner Mégare, puis Égine, puis Trézène. Seulement voilà, quelques mois plus tard, à l'été 323, Alexandre le Grand rend à Babylone son dernier souffle. Et à Athènes, c'est une nouvelle évidemment qui choque beaucoup, qui provoque beaucoup de troubles. En l'absence de Démosthène, une atmosphère d'effervescence mêlée à pas mal d'inquiétudes s'empare de la cité. Beaucoup d'Athéniens poussent à la révolte contre la Macédoine. Puisque les Macédoniens n'ont plus de chef, il faut en profiter, c'est une occasion propice, un instant décisif. C'est le moment, la dernière chance pour les Athéniens d'espérer restaurer un semblant d'indépendance. On lance donc l'offensive. C'est la guerre lamiaque. Les Athéniens, emmenant dans leur révolte un certain nombre d'autres cités grecques, vont se soulever, marcher vers les troupes macédoniennes d'Antipatros, qui a succédé donc à Alexandre. C'est une idée insensée, hein, disons-le. Il n'y avait en fait aucun espoir et la défaite des Athéniens est rapide. La coalition menée par eux est écrasée par les troupes macédoniennes à Cranon dès le mois d'août 322 et on peut dire qu'en quelques mois seulement, tout est fini. Athènes doit capituler, accepter les exigences de l'ennemi. Et les exigences en question sont drastiques. Elles sont même d'une violence extrême pour la cité grecque. Il est décidé qu'une garnison macédonienne sera établie à Munichi, qui est un des 3 ports d'Athènes. Les Macédoniens s'emparent des vaisseaux athéniens et surtout, Antipatros impose à Athènes une constitution censitaire. Censitaire, ça veut dire que seules les plus grandes fortunes d'Athènes auront désormais voix au chapitre. Disons-le clairement, c'est la fin de la célèbre de l'ancienne citoyenneté athénienne, c'est la fin du régime démocratique. Les Macédoniens, enfin, exigent que Démosthène, Hypéride et leurs partisans soient condamnés à mort. Alors là, c'est le début de la chasse aux orateurs anti-macédoniens. Évidemment, les Macédoniens n'avaient pas envie de se retrouver de nouveau confrontés à Démosthène et à ses partisans. Alors eux vont essayer de s'échapper, bien entendu. Leur problème, c'est de savoir où aller. La domination macédonienne est quasiment totale dans le Péloponnèse. On ne peut pas échapper à la puissance nouvelle du successeur d'Alexandre. Il y a un certain nombre de fuyards, dont Hippéride, qui se réfugient à Égine. Seulement, presque immédiatement, ils sont faits prisonniers. On les conduit à Cléonaï, la cité dans laquelle Antipatros est installé, et là, ils sont immédiatement mis à mort. On connaît le potentiel d'affabulation de Plutarque, n'est-ce pas ? Est-ce que l'anecdote est vraie lorsqu'il raconte qu'Hippéride s'est vu arracher la langue ? En tout cas, ce serait un symbole fort de la puissance de la parole que l'on reconnaît aux anciens orateurs athéniens. Et Démosthène, me direz-vous, que devient-il ? Où est-il caché ? Le grand orateur s'est réfugié à Calori, dans le sanctuaire de Poséidon. Il sait que la mort l'attend, que son exécution est prochaine, alors il décide de prendre les devants. Il a toujours sur lui une petite fiole de poison, vous savez, une petite fiole de ciguë. Et lorsqu'un des sbires d'Antipatros finit par retrouver sa trace et le rejoint dans le sanctuaire, eh bien, Démosthène se suicide. Sa mort fut un peu comme sa carrière rhétorique, théâtralisée à un tel point qu'il accédait définitivement pour la postérité au rang de héros d'une tragédie dont le scénario était historique et non plus rattaché au mythe, nous dit Patrice Brun. Il mourut vers la fin du mois d'octobre 322. Tout était allé très vite. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'a même pas vu venir le retournement de situation qui faisait du monde entier un lieu hostile pour lui. Démosthène, une fois mort, et avec lui les principaux résistants à la Macédoine ayant disparu, on peut dire que la vie à Athènes n'est plus du tout la même. La République d'Athènes, la cité, longtemps indépendante et si longtemps rayonnante d'Athènes, voit désormais s'évanouir tous les espoirs de grandeur qu'elle avait pu encore former. On peut dire en cette année 322 avant notre ère, qu'une page de l'histoire d'Athènes, qu'une page de l'histoire de la Grèce, qu'une page de l'histoire de l'humanité est tournée. Bonjour Patrice Brun, nous venons de découvrir la vie et la fin de Démosthène. Avec vous, nous allons revenir sur un certain nombre de ses idées.
Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Cet après-midi sur Europe 1, au cœur de l'histoire de l'Antiquité grecque, avec un personnage, Démosthène. Et nous allons plus loin, Franck, avec votre invité. Vous recevez Patrice Brun, professeur d'histoire grecque à l'Université Bordeaux-Montaigne.
Est-ce qu'il y a encore, Patrice Brun, un doute sur la corruption de Démosthène dans cette affaire ? Est-ce qu'il est, oui ou non, l'homme qui a trahi d'une certaine manière ?
Alors, il n'y a guère de doute sur ce que nous appelons la corruption, mais par contre, on ne peut pas parler de trahison. C'est que, tout simplement, la notion de corruption, telle que nous l'entendons maintenant, ne correspond pas du tout à la manière dont les anciens Grecs voyaient ce que nous appelons la corruption. La corruption, pour nous, il y a deux types de corruption, corruption active et corruption passive. La corruption passive étant celui qui reçoit de l'argent. Les Grecs ne condamnaient vraiment que la corruption passive. La corruption active étant au contraire considérée comme, je dirais, quelque chose d'assez intelligent qui permet de faire avancer ses idées et la politique que l'on défend.
La preuve d'une certaine habileté, tout simplement.
Exactement, c'est de l'habileté.
Alors le tribunal, néanmoins, l'aréopage, comme on l'appelle, a tranché. D'après vous, il avait raison ?
je crois qu'il avait raison. Pour autant qu'on puisse le dire à près de 2,5 millénaires de distance, je pense qu'il avait raison. Démosthène a récupéré pour lui une partie de l'argent que le trésorier d'Alexandre avait amené. Pour autant, est-il totalement corrompu et a-t-il tout gardé? Là, on ne le saura jamais. Qu'il en ait gardé une partie pour lui, oui, mais il ne faut jamais oublier qu'à Athènes, dans la démocratie athénienne, les orateurs, ceux qui montent à la tribune pour exhorter le peuple à aller dans le sens qu'il souhaite, ne sont jamais payés. Il n'y a pas de salaire.
Par principe même, c'est la citoyenneté qui s'exprime. Voilà, c'est le devoir du citoyen.
On fait son devoir et les orateurs, ne sont, les hommes politiques, derrière nous maintenant, ne sont pas payés. Et donc, eh ben, il faut qu'ils trouvent les moyens de vivre et c'est aussi un moyen pour eux. Tout ce que nous appelons maintenant la corruption, lorsque un État étranger vient leur demander de faire avancer les idées de cet État étranger, eh bien, ils parlent et ils sont rémunérés pour cela.
Ils parlent, ce terme est essentiel, puisqu'il semblerait que l'essentiel du pouvoir de Démosthène était dans le verbe. Il était un très grand orateur, on peut le dire ça.
Ah, on doit le dire, de tous les contemporains de Démosthène disent qu'il avait une voix extrêmement puissante. Et il faut imaginer ce que peut représenter le poids d'une parole importante. Parce que les orateurs n'ont pas de micro. Comme nous, là, aujourd'hui. Ils s'adressent en plein air.
Ils bénéficient souvent d'architectures qui sont particulièrement propices, quand même, hein, qui sont bien sonorisées.
Pas à Athènes, c'est en plein air. Mm-hmm. Du haut d'une tribune qui est taillée dans le roc. Et quand on imagine qu'il faut s'exprimer en plein air à plusieurs milliers de citoyens qui ne sont pas d'une sagesse toute philosophique,
non, bien sûr.
Eh bien, il faut avoir une voix.
Il y a beaucoup de petites conversations privées.
Et bien entendu, et puis voire même des lazis qui fusent de divers rangs de l'Assemblée. Non, il faut avoir une voix puissante. Mais la force de l'orateur, c'est d'abord la puissance de sa voix, mais c'est aussi la puissance de son argumentation. Tout ce qui est dans le terme de logos en grec, c'est à la fois la capacité à bien s'exprimer, mais aussi à faire avancer habilement ses idées.
Mais tout ça quand même est un peu une école de cynisme, disons les choses. C'est-à-dire que la très grande aptitude de Démosthène à convaincre ses concitoyens a été utilisée dans deux sens complètement opposés. Ce qu'on peut reprocher à Démosthène, c'est de s'être laissé acheter, alors qu'il était précisément celui qui, longtemps, avait dénoncé ceux qui vivaient à la solde de l'ennemi.
Ah ben c'est toujours le problème de certains hommes politiques.
Ça nous rappelle des sujets très récent. Ah,
mais vous savez, si Démosthène est un personnage captivant, c'est parce qu'il nous parle encore à nos démocraties. Il parle encore à nos démocraties. Et il interroge beaucoup de choses sur quelle est la place du grand homme ou de l'homme important dans une démocratie qui se veut égalitaire. La place, évidemment, très 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 importante actuellement de la corruption et de l'argent qui circule. Je préfère parler d'argent qui circule plutôt que de corruption. Mais effectivement, je dirais, lorsqu'on a des mots très vifs, très très durs, vis-à-vis de ses opposants politiques, il ne faut évidemment pas s'étonner que ces derniers, lorsqu'ils en ont l'occasion, bien, prennent leur revanche.
Ce qui est étonnant, c'est qu'avec l'épaisseur du temps, ce qui est resté de Démosthène, c'est d'abord et avant tout un discours d'Athénien idéal, d'une certaine manière. Dans un contexte, nous y viendrons d'ailleurs tout à l'heure, dans un contexte qui est particulièrement délicat pour Athènes, qui est même mortel et fatal. Mais était-il véritablement l'incarnation de ces idées d'une citoyenneté athénienne parfaite?
Je ne crois pas. Parfaite, certainement pas. En tout cas, les contemporains ne le voyaient pas comme ça. Mais pendant quelques années, il a été véritablement, d'une certaine manière, l'illustration de ce qu'était Athènes. Et de la place d'Athènes dans le concert des cités grecques, oui, de l'environnement. Oui. Il a été pendant quelques années, on va dire pendant 5-6 ans, il a été vraiment celui qui symbolisait la cité d'Athènes. Ça, c'est tout à fait vrai. Maintenant, citoyen idéal, oui, lui, il le dit. Mais ses contemporains ne le disent pas et on a un certain nombre de textes.
Mais d'où est venue alors cette idée, ce mythe? D'une certaine manière, c'est un mythe.
Alors c'est un mythe, une légende peut-être, oui, un mythe si l'on veut, qui a été en grande partie déclenché par son neveu, qui a souhaité avoir une place politique importante et qui a utilisé l'image de son oncle.
Le neveu en question, c'est Démocharès.
Absolument, Démocharès. Mmh. Voilà. Et Démocharès, qui, 40 ans à peu près après la mort de Démosthène, qui devient puissant à Athènes, et qui cherche pour se valoriser lui-même, valoriser l'image de son oncle. Et c'est vraiment à partir, on va dire, des années 280 avant notre ère, que le mythe de Démosthène est en train de se mettre en place.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Europe 1,
au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous sommes au cœur de l'histoire de l'Antiquité grecque cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité. Nous essayons d'en savoir plus sur cet homme politique qu'était Démosthène et sur le contexte politique de l'époque. Nous allons plus loin avec Patrice Brun, qui est professeur d'histoire grecque à l'Université Bordeaux-Montaigne.
Oui, si vous êtes d'accord, Patrice Brun, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne un peu sur le personnage de Démosthène. Est-ce qu'il est possible, plus de 2300 ans après, de savoir exactement qui il était ? Avons-nous une idée de l'homme, de sa vie, des étapes qui ont été celles de son parcours personnel et politique ?
Alors, on a quand même quelques points que nous pouvons considérer comme assurés. Tout n'est évidemment pas sûr parce que nous n'avons pas de rapport au jour le jour de sa vie.
Mais non, bien sûr.
Mais on sait grâce à lui, parce qu'il a beaucoup parlé de lui, hein. et on sait que son père est mort alors qu'il était tout jeune, il avait 7 ans, et il a dû se battre. Il a dû se battre à sa majorité pour récupérer le patrimoine que ses tuteurs avaient dilapidé. Et grâce à ces discours que nous avons conservés, nous savons de quel milieu il était, un milieu riche. Même si ses tuteurs ont bien ponctionné le patrimoine familial, il a vécu une enfance quand même riche. Indiscutablement, je dirais, les procès contre ses tuteurs ont déclenché chez lui, je dirais, une appétence.
Voilà, un goût de la polémique, enfin pas de la polémique, mais de la discussion en tout cas.
La polémique, parce que les mots qu'il utilise sont quand même extrêmement forts contre ses
C'est là qu'il a fait ses armes d'orateur.
Absolument.
En fait.
C'est là qu'il a fait ses armes d'orateur, et c'est la raison pour laquelle on peut dire que toutes les petites anecdotes qui nous montrent comme bègue, avec beaucoup de difficultés.
C'est vrai l'histoire des cailloux là.
Bon, on ne saura jamais. Mais bien entendu, mais c'est quand même assez peu probable, parce que quelqu'un qui a 20 ans est capable de parler devant plusieurs centaines de juges et de parler bien, puisque c'est lui qui s'exprime. Je pense quand même qu'il ne devait pas être bègue comme...
Oui, on peut imaginer qu'il maîtrisait assez bien la parole et que son éloquence s'appuyait sur des facilités.
Rien à voir avec le discours d'un roi, par exemple.
Non, voilà, j'imagine.
Il avait évidemment des qualités. Par contre,
le discours d'un roi, vous faites allusion au roi Georges VI, le père de l'actuelle souveraine, qui était bègue, lui, complètement.
Complètement, et qui a beaucoup travaillé. Mais disons-le tout net, il n'y avait pas beaucoup de... Sur l'agora d'Athènes, il n'y avait pas beaucoup d'orthophonistes. Hein. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop s'arrêter à ces petites anecdotes.
Alors, Démosthène est entré en politique parce que si le système de la démocratie athénienne amenait tous les citoyens à participer d'une manière ou d'une autre à la vie de la cité, certains s'impliquaient davantage que d'autres et devenaient des hommes politiques, un peu comme aujourd'hui. Lui, il entre véritablement en politique. À la faveur de quels événements ?
Vous savez, il n'a pas manqué d'événements à Athènes pour déclencher chez lui un certain nombre de réflexes. Du futur homme politique. En fait, on peut considérer que c'est au moment où il approche des 30 ans qu'il devient véritablement un homme politique. C'est-à-dire, un homme politique à Athènes, c'est quelqu'un qui se lève et qui décide d'aller devant l'Assemblée du peuple pour parler. C'est ça, un homme politique. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas de coterie. On a des amis, bien entendu, mais rien n'est fixé comme dans nos démocraties actuelles. Et c'est à la faveur d'une défaite militaire d'Athènes, celle qu'on appelle la guerre des alliés, qu'on le voit à ce moment-là prendre, je dirais, la parole régulièrement et faire des discours dont
il devient l'anti-macédonien attitré, en fait.
Oui, alors là, il a mis du temps, hein, beaucoup plus de temps qu'il ne le dit lui-même.
Ce n'est pas un engagement foncier et viscéral.
Disons qu'il a voulu, à un moment de sa vie, dire qu'il avait toujours été anti-macédonien. Mais les documents que nous avons de lui et qui émanent de sa propre parole, nous indique que s'il en a pris conscience, c'est au moins, on va dire, vraiment quelques années après son entrée en politique. Mais quand il est devenu anti-macédonien, on va donner une date, c'est 348 avant notre ère, alors là, absolument, il est resté anti-macédonien ensuite.
Donc, on peut dire de Démosthène que son parcours est celui d'une évolution permanente jusqu'à la... trahison finale, en quelque sorte. Les gens lui en ont voulu à l'époque de son attitude.
Je pense qu'il y en a un certain nombre, parce qu'il a été, comme il n'a pas pu montrer, je dirais que cet argent avait été utilisé pour l'État, pour la cité. Il a été condamné à une très forte amende, et comme il n'a pas pu la payer, il a été exilé. Et là, je pense qu'effectivement, un certain nombre d'Athéniens ont pensé que il n'avait pas, comment dire, joué le rôle qu'on attendait de lui. hein, et qu'il avait probablement mis un peu trop de côté, un peu trop de ce que les normes du temps pouvaient permettre de trouver acceptable.
Quel a été son rôle effectif dans la défaite d'Athènes ?
Oh, il ne faut pas personnaliser la défaite d'Athènes. Mmh. Athènes est une cité qui a beaucoup de difficultés au IVe siècle avant notre ère, parce qu'il y a autour d'elle, contrairement à l'époque de Périclès, beaucoup de puissances qui cherchent à rogner son pouvoir. Et notamment, apparaît vers le milieu du IVe siècle, la figure puissante de Philippe II de Macédoine. Et en fait, on peut dire que c'est plus Philippe II de Macédoine qui a gagné que les Athéniens qui ont perdu.
Oui.
Mais il ne faut pas personnaliser la défaite d'Athènes. En fait, c'est un...
C'est tentant quand même, vous avouez, surtout lorsqu'on bénéficie d'un personnage comme celui-là. On aimerait pouvoir identifier la défaite au personnage lui-même. Vous pensez que ce serait excessif ?
Ça serait excessif.
Mais c'est pas ce que les gens ont fait à l'époque. Est-ce que ce ne sont pas ce que ses contemporains ont essayé de faire ?
Oui, bien sûr, parce que c'est toujours plus facile de personnaliser une défaite que de la collectiviser.
Mais oui.
Alors, on peut dire tout autant. Et d'ailleurs, c'est ce que certains ont dit à un moment, notamment du côté des historiens allemands de la fin du XIXe siècle, que c'était la défaite de la démocratie face aux monarchies militaires. Évidemment, là, on voyait assez vite le type d'anachronisme dans lequel on pouvait tomber.
Oui, bien sûr. Mais on essaie toujours de faire des projections, forcément.
Bien sûr.
À ce propos, il a vécu, notre Démosthène, à la même époque qu'Aristote et que Platon. Il les a connus, il les a fréquentés.
Alors, il est d'une génération après Platon. Hein.
Oui, c'est plutôt la génération d'Aristote, en l'occurrence.
Ils sont exactement contemporains.
Oui, oui.
Se sont-ils rencontrés ? C'est possible, parce qu'Athènes n'est pas une grande cité. Mais Aristote n'apparaît jamais dans le discours de Démosthène, et on le comprend, Aristote n'est pas un citoyen athénien. Et Démosthène n'apparaît pas dans les œuvres d'Aristote. Donc vraiment, on a un petit peu l'impression que ces deux personnages se sont certainement croisés dans les rues d'Athènes, parce qu'encore une fois, Athènes est une petite ville à notre échelle, mais leurs œuvres n'ont pas interféré l'une sur l'autre.
Oui. En fait, on pourrait même dire que, d'une certaine manière, il a ignoré la vie intellectuelle de son temps. Il s'est plus intéressé à la politique qu'à la philosophie.
Ah, tout à fait. D'ailleurs, pareil pour, je dirais, tous les philosophes qu'il y a à Athènes à ce moment-là, on ne voit pas Démosthène, je dirais, les fréquenter globalement. Hein. Et les philosophes à l'époque, notamment l'école de Platon, disaient qu'il fallait absolument s'éloigner de l'agora. Il fallait s'éloigner de l'agora et que l'agora ne pouvait poser que des problèmes. Et par conséquent, les philosophes, notamment l'école dite de l'Académie, l'école de Platon, vit dans ce qu'on a fini par appeler une tour d'ivoire, c'est-à-dire totalement déconnectée de la vie politique du temps.
J'aimerais qu'on revienne sur la figure d'Alexandre le Grand et la perception qu'on en a du côté d'Athènes dans un instant.
Au cœur de l'histoire,
sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de l'Antiquité grecque cet après-midi sur Europe 1 avec cet orateur que vous nous avez présenté depuis 14h, Démosthène Franck, et nous allons surtout maintenant nous intéresser au contexte de l'époque avec bien sûr Alexandre le Grand, et nous en parlons avec Patrice Brun qui est professeur d'histoire grecque à l'université Bordeaux-Montaigne.
La grande question de l'époque de Démosthène, c'est le rôle et la place d'une cité comme Athènes face à l'hégémonie macédonienne. On s'est longtemps battu contre Philippe II, là on peut dire que Démosthène joue un rôle de fer de lance à ce moment-là. Et puis, à la mort de Philippe, c'est son fils qui prend les rênes, et la puissance macédonienne paraît absolument impossible à endiguer.
Ah, tout à fait.
Alexandre est une sorte de démon pour les Grecs.
Si on utilise un anachronisme, on dirait que c'est un bulldozer.
C'est un bulldozer, voilà. Moi, je savais pas quelle image employer, mais je crois que vous allez encore plus loin que moi, finalement.
Oui, mais en fait, si vous voulez, dès qu'il arrive sur le trône en 336, Alexandre veille à conserver le pouvoir que son père avait. Et il y a une cité qui s'appelle Thèbes qui essaie de se révolter, il ne fait ni une ni deux, il la rase, il tue les hommes, et les femmes et les enfants sont mis en esclavage. Oui. Donc ça calme les velléités de révolte.
Ça fait un exemple, en fait.
Et c'est une des raisons pour lesquelles, que lorsqu'il est parti dans son expédition en Orient, la Grèce ne s'est pratiquement jamais soulevée.
Elle n'a pas bougé.
Elle n'a pas bougé.
Mais Athènes aurait pu profiter de l'éloignement d'Alexandre et de l'orientation de ses conquêtes vers l'Orient et vers le sud de la Méditerranée.
Il y a sans doute eu des moments où ils auraient pu le faire, notamment au moment où Thèbes se soulève en 335. On ne bouge pas.
On ne bouge pas.
au moment où Sparte se soulève en 331, on ne bouge pas non plus.
Mais pour quelle raison, d'après vous, vous qui connaissez Athènes et les Athéniens?
Parce que je crois que la défaite de 338 avait été très rudement ressentie. Et finalement, les Athéniens ne s'en étaient pas tirés si mal que ça. C'est-à-dire que Philippe de Macédoine avait, le père d'Alexandre, avait finalement accepté que Athènes garda l'ensemble de ses possessions à l'extérieur de d'Athènes même. Et finalement, c'était une paix qui, ma foi, n'était pas humiliante. Et quand on sait qu'en plus, dans cette période-là, c'est une époque de grand développement économique, dirions-nous, pour la cité d'Athènes, finalement, un certain nombre d'Athéniens ont considéré qu'on avait beaucoup plus à perdre qu'à gagner à une révolte contre les Macédoniens.
Oui, donc tout le monde se tient tranquille d'une
certaine
manière.
Tout le monde se tient tranquille.
Et Démosthène dans cette affaire, à ce moment-là.
Ah, se tient particulièrement tranquille.
Eh oui.
Particulièrement tranquille. Et c'est là où, je dirais, son habit d'anti-macédonien a tendance, à disparaître. Il ne fait saisir aux Athéniens aucune des occasions que j'ai citées pour se soulever contre les Macédoniens. Et c'est la raison pour laquelle, ensuite, on a essayé de dire que Démosthène était vraiment un traître, tout simplement, parce qu'il n'avait pas saisi ces occasions de se soulever contre les Macédoniens.
Mais là, on peut dire que c'est la mort d'Athènes, d'une certaine manière. Alors, quand je dis la mort d'Athènes, après tout, Athènes se survivra, et un jour même, au moment avec l'Empire romain, on dira que la Grèce vaincue est vainqueur de son fier vainqueur. Certes, d'ailleurs, la Grèce continue de vivre un peu à travers nous aujourd'hui, la Grèce antique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la fin de la grande Grèce puissante et rayonnante et lumineuse.
C'est la fin de la grande Athènes puissante.
Voilà, Athènes, pardon, je dis Grèce.
Mais pas la Grèce.
Athènes.
Oui, mais
vous avez raison, pardon.
Oui, c'est-à-dire que c'est le moment où on prend conscience qu'Athènes ne peut plus dominer le monde.
C'est ça, voilà, voilà.
Voilà. Ça, c'est. Il y aura encore.
La fin de l'ère classique pour Athènes.
C'est la fin de l'ère classique. On le dit souvent que c'est à la mort d'Alexandre, mais enfin, on peut considérer quand même qu'effectivement, parce qu'il y a une révolte athénienne à la mort d'Alexandre, et que la défaite finale.
Alors là, c'est le glas.
C'est le glas, puisqu'il y a une garnison macédonienne qui vient dans la cité, la démocratie est abolie. Là, effectivement, on a le sentiment d'une véritable rupture. Mais Athènes a survécu, mais dans des conditions qui, effectivement, ne sont pas du tout celles qu'elle a pu connaître du temps, par exemple, de Périclès.
Mais regardez qui nous rend visite. Bonjour Vanessa Zah.
Bonjour Franck.
Vous allez nous emmener à Athènes, justement.
Tout à fait.
Moi, je ne vais jamais à Athènes sans que ce soit signe de vacances, inutile de vous dire. Ça sert souvent, d'ailleurs, de plaque tournante pour des vacances
entre,
dans tout le bassin. Entre deux bateaux, disons-le, ou entre deux avions, parfois. C'est une ville merveilleuse, Athènes. Je n'ai cessé de le dire, car je pense qu'il y a peu de villes en Europe qui soient aussi accueillantes, aussi merveilleuses, malgré toutes les difficultés que nous connaissons. Vous allez nous promener dans la ville, bien sûr. On va aller faire un tour dans la placa.
Exactement, la placa. On va découvrir aussi d'autres quartiers, parce qu'il y a d'autres quartiers qui méritent d'être découverts, qu'on sente quand même cette atmosphère quand même bouillonnante qu'il existe, malgré ce qu'on disait, la crise économique. Voilà. Et il n'y a pas que l'acropole, il y a beaucoup d'autres choses à voir.
Moi, ce qui me frappe beaucoup lorsqu'on est à Athènes, en dehors des grands musées, évidemment, et de l'acropole et de tout ce qu'on sait, c'est la présence de cette cité antique, la présence de ces grandes figures de l'Antiquité. Alors, Périclès, évidemment, à toutes les sauces, mais un homme comme Démosthène fait partie du quotidien des Grecs d'aujourd'hui. C'est quand même amusant de le souligner, Patrice Brun.
Ah ben, les rues, quand on regarde le nom des rues, par exemple, c'est une...
Incroyable.
C'est une efflorescence des grands hommes de l'Antiquité.
C'est ça.
Des Phocion, Démosthène, Platon...
Et quand on parle aux Grecs d'aujourd'hui, pour eux, ce sont des figures qui... Alors, qui sont familières, c'est peut-être un peu excessif, ça dépend de quel grec on parle. Mais enfin quand même, les Athéniens restent fidèles à leur grande époque qui est bimillénaire maintenant.
Oui, il y a une forme toujours de filiation.
C'est ça.
Une forme de filiation, même si, disons que les dernières années ont montré que l'Antiquité ne suffisait pas à maintenir le prestige. Hein.
L'étude biographique que vous consacrez à Démosthène chez Armand Collin est sous-titrée « Rhétorique, pouvoir et corruption ». Vous avez bien mis « rhétorique » en premier lieu. C'est d'abord un orateur qu'il faut retenir ?
Est-ce que c'est d'abord un orateur ? Et que si j'ai mis ça un petit peu dans cette suite, c'est que d'abord un orateur, c'est grâce à la puissance de sa parole qu'il a acquis le pouvoir qu'on lui connaît. Et c'est peut-être parce qu'il avait beaucoup de pouvoir qui a eu cette tentation.
Qui a eu la corruption.
Eu un certain nombre de tentations.
Voilà. Et voilà.
Donc, alors, je ne sais pas si ça nous permet de voir des exemples contemporains, mais il est certain que les démocraties posent toujours un petit peu les mêmes questions.
Comme disait Toynbee, c'est la trilogie grecque, Koros, Hubris, Athée. satiété avec la rhétorique, démesure avec le pouvoir et désastre dans la corruption. C'est peut-être un peu simplifié comme trilogie, mais comme modèle, mais c'est assez vrai en l'occurrence.
Disons que quand on fait un titre, et Arnold Toynbee faisait un petit peu la même chose. Je veux dire qu'à partir du moment où on cherche un titre, forcément, on essaie d'aller un petit peu à l'essentiel et d'aller à un titre un peu choc.
Merci beaucoup Patrice Brun. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire grecque à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous êtes venu, malgré quelques difficultés sur la ligne, on est en train d'installer en ce moment la ligne à grande vitesse et donc c'est compliqué, mais vous êtes venu de Bordeaux pour nous parler de Démosthène et votre ouvrage est paru chez Armand Collin. Merci beaucoup et dans un instant, nous partons donc pour Athènes.
Au cœur de l'histoire.
Sur Europe 1.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Et cet après-midi, depuis 14h, si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de Démosthène, cet homme politique de l'Antiquité grecque. Vous l'avez donc compris, la Ferrand Mobile vous emmène à Athènes, découvrir cette magnifique ville où les monuments du passé sont au même endroit que ceux d'aujourd'hui. Et c'est Vanessa Zah, journaliste à Europe 1, que vous retrouvez tous les dimanches matins dans les escapades culturelles, qui va nous servir de guide, Franck.
Alors Vanessa, disons tout de suite qu'Athènes n'a pas toujours bonne réputation. Pendant très longtemps, on disait que c'était une ville affreusement polluée. Alors qu'entre parenthèses, quand on voit la pollution qui est au-dessus de Paris, je crois que vraiment, nous n'avons strictement rien à envier aux Athéniens. On disait que c'était une ville où il y avait une circulation infernale, alors qu'au contraire, le système de métro est d'une efficacité, à mon avis, une des plus grandes efficacités en Europe. On dit que c'est une ville où le tourisme est omniprésent. Au contraire, le tourisme est très bien accueilli et les différents quartiers de la ville font que les gens se répartissent presque sans qu'on le voit. Et on dit toujours que c'est une ville très pauvre, très difficile, parce que, évidemment, la crise est passée par là depuis quelques années. Alors qu'en fait, on peut passer, et ça m'arrive moi très régulièrement, 2, 3, 4 jours à Athènes, quasiment. Alors évidemment, on voit bien la crise, hein, ça c'est certain, mais pas plus qu'à Paris ou pas plus qu'ailleurs, franchement. Donc, de fausses réputations sur Athènes, disons les choses.
On est d'accord et c'est vrai, vous le disiez très bien, c'est-à-dire qu'on passe d'un quartier à un autre, on déambule sans être dans un flot touristique comme on peut avoir dans d'autres villes, comme Rome d'ailleurs. On n'a pas du tout la même impression. Et ce qui est dommage, c'est que c'est vrai que quand vous parlez avec des gens qui partent en voyage justement dans les Cyclades, ils passent par Athènes.
Oui, mais ils restent même pas 24 heures.
24 heures, ils prennent une chambre pour dormir et puis après, hop, on file vers le Pirée, vers le port pour prendre son bateau et c'est bien dommage.
Et bien ça, alors là, c'est le conseil qu'en ce tout début d'été, nous allons donner à nos auditeurs. Si vous partez pour la Grèce, vous passez forcément par Athènes, presque à coup sûr. Au lieu de reprendre tout de suite l'avion ou d'aller prendre le bateau au Pirée 3 heures après votre atterrissage, restez 48 heures, 72 heures à Athènes et vous ne l'oublierez pas. Parce que, alors d'abord, la merveille des merveilles, on va parler de tout ce qu'il y a à voir, il y en a, Dieu sait. Mais la merveille des merveilles, c'est l'Acropole quand même. Voilà. C'est inouï d'avoir ça.
Exactement, on parlait de Périclès, donc là voilà. Hein. Merci Périclès.
Même Démosthène encore.
Démosthène encore. Oui. Donc on est donc dans cette Acropole qui a été.
L'Acropole, c'est donc la ville haute antique. Hein.
Alors oui,
qui est au-dessus, qui est en suspens au-dessus de la ville. En fait.
En suspens à 156 mètres. Et en fait, Acropole vient d'Acros, élevé, et de polis.
Acropolis, oui, ça veut dire la ville haute.
Acropolis, la ville haute. Hein, donc, c'est, de manière générale, ça signifie donc toujours c'est une citadelle qui est construite comme ça, de manière plus élevée. Et c'est là, en général, que la population pouvait évidemment se réfugier en cas d'attaque. Alors, l'Acropole, évidemment, contient énormément de monuments. Je ne vais pas pouvoir vous parler de tous les monuments.
Aujourd'hui, ça fait comme une sorte de grand gâteau de temple tout blanc qui, la nuit, deviennent dorés parce que c'est illuminé et on ne voit que ça. Où que vous soyez dans n'importe quelle terrasse-restaurant d'Athènes, vous avez cette acropole qui est là au-dessus de vous, c'est quand même inouï.
On l'a dans toutes les perspectives, magnifique, dans n'importe quel quartier.
Mais autrefois, elle était colorée, elle était peinte. Hein.
Alors, c'est ça qui est important de dire, c'est que les temples et les statues étaient peintes. Et en fait, on en a une fausse idée. On a l'impression que finalement, toutes ces merveilles antiques étaient blanches. Et en fait, c'est au moment où la Rome impériale a voulu copier l'art grec, qu'elle l'a recopié en fait, mais en blanc. Alors, c'est devenu le symbole de la perfection. Et quand plus tard, la Renaissance italienne a voulu redécouvrir l'art grec, ils l'ont fait en fait à travers des copies antiques, justement, des statues romaines blanches. Voilà. Alors qu'il faut quand même que vous imaginiez que ce Parthénon, que cette Érechtheion, c'est la carte postale, vous savez, c'est ce temple avec les cariatides, oui. Pour qu'on puisse se représenter. Mais tout ça, c'était peint, c'était coloré. Il faut quand même se remettre dans l'époque. Il y a d'ailleurs de nombreux DVD qui ont été faits où on a reconstitué ces temples avec les couleurs.
Ce qui est très beau à l'Acropole, c'est que contrairement à un certain nombre de sites antiques d'Italie, par exemple, où on passe sans transition d'une zone industrielle à une zone antique, c'est même choquant. Là, au contraire, vous avez le temps de vous mettre dans l'ambiance parce qu'il faut monter par ces petits sentiers au milieu des pins maritimes, ça
des
sent
oliviers.
La Méditerranée, des oliviers qui sont de plus en plus nombreux dans cette espèce de, j'allais dire, de collines arborées à l'ombre argentée. C'est un rêve, déjà. C'est-à-dire que vous avez cette espèce de sas entre notre monde et le monde antique, et quand vous arrivez
l'ascension vers les dieux,
c'est ça,
complètement.
C'est formidable.
Avec ce fameux chemin dont vous parlez, qui est un chemin qui vous emmène jusqu'aux collines des nymphes, des muses.
Absolument.
C'est très très beau, et vous avez d'ailleurs tout en haut un sanctuaire qui s'appelle le sanctuaire de Philopapou, qui est un endroit absolument sublime pour voir le coucher du soleil sur toute cette ville antique complètement blanche. Et vous avez d'ailleurs donc ce chemin qui porte un nom un petit peu donc
le Péripatou,
voilà, exactement, et qui vous permet justement, comme vous le disiez si bien, d'être dans une balade fluide archéologique où vous allez pouvoir passer comme ça, donc de l'Acropole au Parthénon, au théâtre de Dionysos, très beau théâtre. Et, enfin, il faut savoir que à l'époque, il y avait toutes les grandes représentations, les grands chefs-d'œuvre de Sophocle et de Ripide qui étaient représentés. À l'époque, c'était des estrades de bois. Évidemment, ça a brûlé et le théâtre était reconstruit en pierre. Et c'est le fameux théâtre que l'on retrouve aujourd'hui, même si Néron a fait 2-3 petits arrangements. Voilà.
Alors, on sait que le Parthénon a sauté. Heureusement, d'une certaine manière, que les archéologues du 19e siècle avaient rapporté en France et en Angleterre la fameuse frise du Parthénon. Alors, on en a des morceaux au Louvre et au British Museum. On sait que la Grèce, à l'époque de Mélina Mercouri, voulait récupérer tout ça.
Voulait récupérer. C'est compliqué, hein. Et on sent bien qu'ils ont construit, d'ailleurs, ce musée de l'Acropole.
Alors, ça, il faut le dire. Le plus agréable, peut-être pas le plus riche ni le plus beau, mais le plus agréable musée du monde.
Mais oui, parce que c'est un triangle de verre.
Merveille.
Qui fait, je crois, presque 25 000 mètres carrés.
Oui.
Voilà, et dans lequel donc ils ont mis en valeur en fait toutes les statues. Il y a même une forêt de statues au premier étage. Vous avez les fameuses cariatides parce qu'elles ont été retirées en 79. Donc il y en a 5 qui sont dans ce musée de l'Acropole. Une, la sixième, qui est au British Museum.
Alors, quand on aime les musées d'art ancien, il faut aller bien sûr au musée archéologique d'Athènes, hein, qui est un musée très classique, très à l'ancienne, mais qui, moi, m'émeut profondément avec toutes ces statues grecques qui viennent de tous les coins de la Grèce. C'est le grand musée national archéologique. Mais c'est vrai que ce musée de l'Acropole est un chef-d'œuvre muséographique. Vous êtes en suspension entre terre et ciel, entre la ville et l'Acropole. Vous ne savez plus où vous êtes, avec ces monuments antiques sur fond de verre, sur fond d'Acropole. Non, mais franchement.
Et vous avez l'impression, en plus, de remonter justement, parce que dès l'entrée, vous reprenez les pentes
formidable.
De l'Acropole.
Rien que ça, ça vaut le voyage.
Ça vaut le détour. Je suis entièrement d'accord. S'il n'y en a qu'un à visiter, c'est celui-là, s'il n'y avait pas de temps.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Europe 1,
au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Et de l'époque antique à l'époque actuelle, il n'y a qu'un pas que nous franchissons grâce à la Ferromobile cet après-midi avec vous. Franck, nous visitons Athènes avec Vanessa Zah, journaliste à Europe 1, qui est notre guide.
Alors évidemment, l'Acropole, c'est la ville antique, avec un peu en contrebas son musée de l'Acropole. Ça, je pense que nous avons suffisamment insisté pour donner envie à nos auditeurs d'aller y faire un tour. Mais il y a une ville d'abord et avant tout. Il faut dire que la ville d'Athènes vaut elle-même beaucoup le voyage et le détour, avec notamment notamment ce quartier de Monastiraki qui est une espèce de ruche, hein, littéralement.
De ruche. On y va en général pour arpenter les ruelles, pour aller se plonger un peu dans cette effervescence de son marché aux puces. Voilà. Voilà, à l'ombre d'ailleurs d'une ancienne mosquée. Et puis, il y a un autre endroit comme ça dans lequel vous ressentez vraiment l'âme des Athéniens. Il faut aller prendre un bain de foule, en fait, à Oumania, dans les halles. C'est un marché absolument incroyable. Alors, avec évidemment des légumes, des fruits, mais c'est surtout avec ces étals de poissons et de viande. Alors, vous vous demandez d'ailleurs si vous avez envie de les acheter, parce que ça sent. Enfin, vous êtes vraiment là dans la Méditerranée. Vous reniflez.
Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes plus méditerranéennes, finalement, qu'Athènes, hein, avec toutes les herbes, tous les poissons. Et puis, ces gens dont on a beau dire, ils ont quand même un petit côté antique. C'est-à-dire que le simple fait qu'ils parlent grec, que tout soit écrit en grec partout, vous avez un petit peu l'impression d'être à une autre époque.
Là, le dépaysement est complètement total. Et moi, c'est ce que j'aime bien, d'ailleurs, dans les halles à Oumonia, c'est qu'on a l'impression de se retrouver un peu dans des scènes de Fellini. Je ne sais pas si ça vous a donné un peu la même impression.
Et alors bon, il y a une Athènes plus chic, hein, si je puis dire, la belle cité avec tous les musées, notamment le musée d'art cycladique absolument extraordinaire, et le site que vous voyez toujours à la télévision, puisque c'est la place du Parlement, ce qu'on appelle Syntagma, avec le grand palace local, hein, où il faut descendre, si l'on peut dire, qui est l'hôtel de Grande-Bretagne.
De Grande-Bretagne, exactement, et avec, donc, vous parlez du Parlement, et avec la traditionnelle relève de la garde, voilà, qui se fait donc toutes les deux heures. Et alors ces gardes, en fait, on les appelle les evzones, en fait, ce qui signifie en grec evzone à la belle ceinture. Mm-hmm. Et en fait,
Eusonia.
Voilà, Eusonia, merci. Parce que je sens vraiment que vous
ah, moi, je
vous
parle
vivez,
un peu le grec ancien, pas moderne. Mais ce qui est amusant, c'est que quand vous connaissez le grec ancien, vous arrivez assez bien à comprendre le grec moderne. Ça,
moi,
c'est pas mal.
J'ai pas fait de grec. J'ai fait du latin pendant 10 ans, mais je n'ai pas fait de grec, vous voyez. Et alors, ce nom désignait donc à la base les régiments et les bataillons d'élite, hein, de l'infanterie légère de l'armée grecque. Et alors, ces gardes sont habillés, en fait, d'une fustanelle, c'est-à-dire d'un
peu comme les Dupont en Grèce, là. Hein,
ah, bah, complètement, c'est ça. On est dans l'image des Dupont. Donc, avec un jupon concours, et donc qui est en effet formé de 400 plis, et ces 400 plis en fait rappellent les années passées sous l'occupation ottomane. Hein, Franck.
Alors on ira faire un tour tout à l'heure du côté du musée Benaki, justement, hein, le musée d'art byzantin, d'art cycladique, etc. Avant cela, si c'est l'heure du dîner, il faut bien sûr monter dans ces petites ruelles ultra typiques, dans ces espèces de ruelles en escalier avec tous ces petits jardins partout, ces lampions, ces lanternes, ces boutiques où l'on vous vend des éponges, dont certaines sont made in Taïwan, peu importe, c'est ce qu'on appelle la placa.
Ah, oh, la placa. Alors la placa, ce sont toutes ces ruelles en fait qui encerclent, qui entourent
l'acropole,
en fait
l'acropole.
On est vraiment au pied de l'acropole. Alors c'est vrai qu'il y a un peu deux parties. Il y a une partie qui est très très touristique, de toute façon évidemment, mais moi j'aime bien, je pense que vous serez d'accord avec moi, cette partie qui est un tout petit peu plus au nord, dans ce coin de Anafiotika, avec évidemment toute cette ambiance finalement que vous retrouvez dans les îles des Cyclades. Vous parliez donc des murs qui sont peints à la chaux blanche, de ces fleurs, de ces senteurs, de ces petites terrasses. Enfin, il y a une douceur de vivre.
Ouais, il faut dire que c'est devenu, soyons honnêtes, ultra touristique. Ouais. Il y a un petit côté place du Tertre à Montmartre.
Hein, mais c'est comme ça.
Mais vous avez tous ces restaurants qui sont installés dehors. Et comme la nuit étoilée de Grèce est toujours très chaude et très douce, c'est très agréable d'être évidemment sous cette voûte à dîner. On vous sert toutes sortes de petits plats grecs, bien entendu.
Grec, évidemment.
Alors évidemment, il y en a qui sont plus ou moins touristiques. À vous d'être un peu malin de ne pas vous laisser avoir par la publicité, parce qu'on vous prend volontiers par la main pour vous faire entrer dans le restaurant.
Hein. Ça, c'est clair.
Il y en a même qui cassent les assiettes comme ça pour faire un peu de publicité.
Un peu de publicité, voilà, on est vraiment dans le folklore. Voilà, mais il faut avoir un petit peu de nez et il ne faut pas se précipiter dans le premier venu. Il faut repérer un petit peu avant d'y aller.
Il y a un autre endroit où j'aime bien me promener le soir à Athènes, c'est, alors là c'est tout près de l'acropole, mais c'est l'autre colline si je puis dire, c'est ce qu'on appelle le mont Lycabettus ou le mont Lycabette, qui est le quartier français d'ailleurs, hein, puisque c'est là que quasiment tous les Français ont leur résidence, en fait. C'est un quartier très chic, hein, c'est un peu le 16e arrondissement d'Athènes,
disons
les choses.
Avec Kolonaki aussi, c'est deux quartiers, voilà.
Et ça c'est très très agréable le
alors
soir.
Alors ça, hein, c'est agréable. Il faut prendre le funiculaire. Voilà. Et là, vous montez à presque 278 mètres, mm-hmm. à peu près 80 mètres d'altitude.
Avec une vue incroyable.
Incroyable. Et alors, en plus, s'il n'y a pas trop de pollution, on voit très, très loin jusqu'aux îles Égine, Salamine, comme ça. Et puis, vous avez une vue absolument magique sur toute la cité.
Sur l'Acropole. Parce que rien ne vaut mieux pour voir l'Acropole illuminée le soir que d'être soi-même sur une hauteur.
Une
comme
hauteur
ça.
En face.
Et vous avez au pied comme la mer de la ville d'Athènes avec toutes ses lumières, toute sa circulation, etc. Et puis d'une colline à l'autre, vous avez l'impression de saluer l'éternité. C'est extraordinaire.
Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de la Grèce, au cœur de l'histoire d'Athènes que nous visitons depuis 15 heures sur Europe 1. Restez avec nous pendant encore quelques minutes. La visite se poursuit avec Franck Ferrand et avec Vanessa Zaza qui est journaliste à Europe 1 et qui est notre guide cet après-midi.
Évidemment, flâner le soir dans la douceur grecque est très agréable. Dîner dans la placa est indispensable, disons-le. Et je ne saurais trop recommander les restaurants qui présentent des terrasses. N'hésitez pas à regarder sur vos guides, etc. s'il y a bien écrit terrasse sur le toit des restaurants, parce que c'est 10 fois plus intéressant que d'être coincé en bas, si je puis dire. Il faut avoir ses vues dégagées quand on est à Athènes. Et bien sûr, ce serait quand même bien dommage d'aller à Athènes sans aimer les musées. Alors, on a parlé tout à l'heure du musée de l'Acropole, chef-d'œuvre de muséologie, de muséographie moderne. Mais il y a un musée beaucoup plus classique, beaucoup plus, mais qui, moi, encore une fois, m'émeut, parce que je trouve que c'est
évidemment
le musée. On a l'impression que c'est un musée qu'on visitait du temps de, enfin, au 19e siècle, hein, ou au début du 20e siècle. Ouais. C'est le musée archéologique d'Athènes.
Voilà, qui n'a rien de fantastique dans la muséographie, d'ailleurs, hein.
C'est très classique.
C'est très classique, mais c'est un peu le Louvre grec,
ça,
hein, quelque
voilà.
part. Voilà.
Et donc, avec une richesse. Mais une richesse invraisemblable.
Les céramiques, les sculptures, la poterie, les masques, les bronzes, et il y a le célèbre masque funéraire d'Agamemnon.
Enfin, dit d'Agamemnon.
Dit d'Agamemnon.
C'est ce que voulait nous faire croire Heinrich Schliemann, mais on va faire comme si on y croyait.
On va y croire alors, on va continuer. Et donc il y a aussi le cheval de l'Artémision en bronze. Et puis il y a les superbes courroies, hein, vous
tous
savez.
Les courroies, oui, tous ces jeunes athlètes nus.
Et puis il y a des fresques qui viennent de Santorin, les fresques d'Akrotiri qui sont sublimes,
magnifique.
Les couleurs sont extrêmement bien conservées. Et puis vous avez des amphores funéraires, vous avez le Poséidon, donc en bronze, enfin des marbres, enfin vous avez compris que voilà, c'était quand même l'endroit incontournable à aller voir si vous n'aviez le temps de ne faire qu'un seul musée, et celui évidemment de l'Acropole aussi.
Dans le quartier, alors un peu plus haut, dans le quartier de Kolonaki, derrière Syntagma, vous avez le fameux musée Benaki, installé dans un très bel hôtel particulier.
Sublime. Alors en fait, il y a trois musées, donc Benaki, donc c'est toute la collection en fait d'un riche
Égyptien. Une des grandes familles, oui.
Du Caire, donc, qui était d'origine grecque, et il a fait don de toute sa collection. Et donc, il y a...
Le musée Goulandris aussi, qui est très beau. Enfin, il y en a beaucoup, hein, de ses fondations. Bien sûr.
Et donc avec l'art islamique, la Grèce contemporaine aussi, et puis toutes les premières œuvres donc helléniques. Ouais, c'est en fait un conservatoire hein, de l'art grec de l'Antiquité au XXe siècle.
Le musée d'art cycladique.
Alors, coup de cœur, moi j'adore. Alors moi j'adore parce que je ne sais pas si vous avez eu la même sensation, mais il y a des statues dont les formes sont assez étonnantes et en même temps...
On dirait du Brancusi en fait.
C'est du Brancusi. Très modernes, alors avec des femmes qui ont toutes presque les bras croisés, qui n'ont pas d'oreilles et qui sont quand même assez immenses. Il y en a certaines qui ont jusqu'à 1m40 et elles ont été retrouvées en fait pour la plupart d'entre elles dans des tombes. Donc on suppose, les archéologues supposent qu'elles avaient une fonction funéraire, mais ça reste quand même assez énigmatique quand même pour les archéologues.
Alors vous vouliez nous parler d'un lieu que je ne connais pas qui s'appelle le centre culturel Hellénique Cosmos en forme de tholos, c'est-à-dire de temple rond en fait.
De temple rond. Alors quand vous regardez ça, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un planétarium, voilà, tout en verre, et vous vous dites mais qu'est-ce que ça fait là? Et en fait c'est assez intéressant à faire, je pense, pour des familles, pour faire comprendre et faire vivre finalement l'Antiquité, puisque ce sont des expériences immenses. immersive. On vous refait vivre l'ancienne agora d'Athènes. Vous êtes maître en fait de la visite et vous avez l'opportunité de choisir à quelle époque vous avez envie de vivre dans cette agora. Et puis vous avez aussi la possibilité de revivre toute la légende d'Athéna. Athéna et Poséidon, hein, parce qu'on sait que c'est Athéna qui est le symbole de la ville.
C'est la déesse tutélaire d'Athènes, oui.
La déesse.
Comme son nom l'indique.
Et c'est assez bien parce que finalement, vous êtes visiteur, spectateur et en même temps acteur. Et puis j'avais un autre coup de cœur dont je voulais vous parler. C'est dans le quartier donc de Plaka.
De la Plaka.
Et c'est le musée des instruments de musique populaire grecque. Et alors, c'est un tout petit musée, mais qui est très bien fait. Et là, sont représentés les quatre grandes familles en fait de la musique traditionnelle grecque. Et ce qui est bien fait, c'est que devant chaque instrument, vous avez un casque. Et là, vous êtes plongé aussi dans toute cette mélodie et tout ce patrimoine musical grec.
Vous avez envie d'entendre quelques mesures des enfants du Pirée.
Ah oui, ben j'adorerais.
Sazan, nous quittons sur cette musique qui nous emmène déjà en vacances. Ça va bien parce que la couleur bleue des murs des studios d'Europe 1 est une couleur tout à fait grecque, avec le blanc du 1 comme ça, on dirait des petites maisons grecques.